Chers auditeurs et auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4, bonjour. Nous allons discuter ce soir autour de la conférence internationale sur la sécurité et la paix en Afrique et au Moyen-Orient, à laquelle j'ai assisté vendredi dernier, c'était le 25 avril 2025, au Palais du Luxembourg, donc au Sénat. Tout d'abord, il y a eu un discours d'ouverture avec une chanteuse qui a chanté un chant sur la paix en africain. C'était très beau. Et puis, après le discours d'ouverture, le premier panel a commencé à faire sa conférence avec une communication diplomatique en présence d'ambassadeurs d'Afrique et du Moyen-Orient comme intervenants, ainsi qu'ambassadeurs des pays partenaires au développement, à la sécurité et à la paix. Ils ont été nombreux à exposer leur point de vue. Tout d'abord, il a été dit des choses qui étaient vraiment très importantes. Tout d'abord, un des intervenants a parlé de la protection des minorités en disant que la première chose qu'il faut faire en Afrique pour que ça s'arrange, c'est arranger les problématiques qui sont liées aux rivalités tribales pour qu'il y ait une vraie démocratie. Je me souviens que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, le Liban a eu une constitution qui mettait en avant les différentes minorités religieuses, puisque dans un pays comme le Liban, comme c'est le cas dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, il n'y a pas vraiment de rivalité, enfin il y a quand même des rivalités ethniques hein, qui sous-tendent le tout au Moyen-Orient, mais ce qui prédomine avant les rivalités ethniques qui sont, je le rappelle, encore présentes et qui viennent créer un canevas à double tissage en matière problématique, il y a le fait religieux. Et au Liban, pendant très longtemps, on a abandonné cette constitution-là, mais pendant très longtemps, au Liban, la constitution évoquait chacune des minorités religieuses et elles avaient chacune une part dans l'assemblée législative. Ce qui fait que cela permettait plus ou moins d'éteindre les rancœurs et éviter qu'il n'y ait une seule faction à la tête d'un courant religieux qui domine toute la vie politique de la nation. Eh bien, en Afrique, je pense qu'on pourrait faire la même chose, que la procédure constitutionnelle pourrait représenter une solution pour faire en sorte que les différentes minorités ethniques et tribales soient représentées à l'Assemblée législative. Et ça pourrait être intéressant que la constitution de certains États africains où ce problème est plus récurrent, et c'est notamment le cas au Sahel, je pense au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et à d'autres pays qui sont voisins, en fonction du fait démographique, puisque chaque ethnie a sa propre population, faire en sorte que il y ait une représentation de chaque clan à l'Assemblée législative qui soit obligatoire au prorata de la population par laquelle représente. Ça pourrait être intéressant, ça n'empêcherait pas qu'il y ait des élections, mais on devrait faire en sorte quand même que chacun soit représenté. Ça induirait beaucoup de choses. Ça induirait le fait que, tout comme c'était le cas au Liban, où sur les cartes d'identité, chaque national avait sur sa au Liban sur sa carte d'identité sa croyance religieuse et son appartenance à un courant religieux qui est notifié sur son identité civile. Et bien en Afrique, dans certains pays, on pourrait faire la même chose et mentionner, alors peut-être même d'ailleurs que c'est déjà le cas dans certains pays, mentionner l'ethnie ou le clan d'appartenance de chaque individu sur sa carte d'identité, Ainsi, il y aurait chaque individu aurait une identité à double variante. D'abord et avant tout, son identité nationale, sur laquelle il faudrait faire un travail, non pas de propagande, comme c'est souvent le cas en Afrique aujourd'hui, mais un travail de citoyenneté pour montrer à chacun, pour éveiller chez le peuple de chaque État l'idée d'un sentiment national qui malheureusement, malgré depuis les indépendances des années 60, ne ressort pas de manière évidente. C'est-à-dire que les citoyens de chaque État africain ont beaucoup de mal à concevoir qu'ils sont dans un État-nation et qu'il doit y avoir une identité nationale. Chez certains, cette identité qui ont eu une éducation ou qui ont fait des études, il y a le sentiment que cette identité nationale est présente, mais ce n'est pas le cas de partout, parce que les pouvoirs qui ont pris la place, ont été mis en place après les guerres d'indépendance, ont subi un échec dans cette constitution, dans cette montée en puissance de l'idée de nation, d'une nation une et indivisible chez chacun. Et d'ailleurs, ces nations ne sont pas une et indivisible, puisque par exemple au Sahel, on se souvient que l'Empire du Mali a laissé des traces très profondes dans la mémoire des populations, et qu'au sein de l'Empire du Mali, il y avait une ethnie qui prédominait. Et donc aujourd'hui encore, on en ressent les conséquences. Tout ça, ça avait été gelé pendant les colonisations qui ont duré longtemps, et puis après les guerres de colonisation, ça s'est éveillé. Et on sait très bien qu'après les guerres d'indépendance, en Afrique, les États anciennement colonisateurs ont continué à vouloir dominer la vie politique, économique, bien sûr, ça, on le sait tous, mais ils ont voulu continuer à commander la vie politique des États chez qui ils s'étaient installés avant les indépendances. Et notamment c'est le cas de la France mais aussi de la Belgique, et la Belgique c'était notamment le Congo, la France c'était l'Algérie, le Maroc mais également le Sénégal par exemple, ou le Burkina Faso ou le Mali. Et en fait, on a tous entendu parler du phénomène de la France-Afrique qui continue encore plus ou moins aujourd'hui, mais qui a été très fort et volontairement mis en place par les pouvoirs occidentaux après les guerres d'indépendance, de façon à ne pas perdre la main sur l'évolution de ces pays. Donc c'était, en fait, c'est ce qu'on appelle couramment la post-colonisation. Tout le monde se souvient en Belgique de ce qui est arrivé à l'ancien président du Congo, Lumumba. On sait très bien que à peine avait-il pris le pouvoir avec de grands idéaux et puis un appui politique certain de beaucoup de dignitaires du pays ainsi que du peuple, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait puisqu'il a été très rapidement assassiné. Et on sait aujourd'hui qu'il a été assassiné plus ou moins l'ancien pouvoir en place qui était belge et aidé notamment par des gens qui étaient congolais mais qui n'étaient pas de la même ethnie que Lumumba. Et donc là encore, les États occidentaux se sont joués des rivalités ethniques pour continuer à dominer ces États. Et si au Congo ça a été aussi fort, c'est parce qu'il y avait des minéraux très importants dans ces pays-là et qu'on n'a pas souhaité en Occident abandonner ces mines. Et très exactement, Patrice Lumumba est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Donc c'est justement au Katanga qui étaient situées ces fameuses mines. Et d'ailleurs, Lumumba avait lui-même découvert avant de prendre le pouvoir que les matières premières de son pays jouaient un rôle capital dans l'économie mondiale et que les sociétés multinationales ne faisaient rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Et il s'est reposé sur cette idée-là pour militer et pour un Congo uni. En cela, il se distinguait des autres figures indépendantistes favorables au fédéralisme. Et Lumumba était issu de l'ethnie Tetela. Et son électorat naturel était dispersé dans l'ensemble du pays, ce qui l'obligeait à jouer une carte nationaliste unitaire. Et c'est lui qui a conduit son pays à l'indépendance. Il avait d'ailleurs créé en 1955 une association, l'association du personnel indigène de la colonie, l'APIC, qu'il a aidé à accéder au pouvoir. Il a écrit un livre sous le titre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» où il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il reste partisan. Il va vite être emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance. Et il n'aura pas le temps de publier ce livre, qui paraîtra à Bruxelles après sa mort. En décembre 1958, il est présent à la conférence des peuples africains à Accra, qui constitue pour lui un tournant politique essentiel. Il y rencontre, entre autres, l'antillo-algérien Frantz Fanon, le Guanéen Kwame Nkrumah et le Camerounais Félix Roland Moumié, qui ont notamment en commun d'insister sur les effets délétères du régionalisme, de l'ethnisme et du tribalisme, qui, selon eux, minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Et là, ce constat était déjà fait par Lumumba, Fanon, Nkrumah et Moumié, avant même l'indépendance du Congo, qui viendra la République démocratique du Congo à son indépendance. À l'issue de cette conférence, Lumumba, désormais raffermi et fermement indépendantiste, est nommé membre permanent du comité de coordination. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il décrit son objectif en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En janvier, l'interdiction de rassemblement de l'ABACO, une association indépendantiste, fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines selon certaines estimations. L'ABACO est dissoute et son dirigeant, Joseph Kasavubu, est déporté en Belgique. En octobre, lors du congrès national du MNC, le parti de Lumumba, à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule en faisant 30 morts et des centaines de blessés. Lumumba sera arrêté et torturé, puis il y aura des émeutes qui exigeront sa libération et ce seront des moments décisifs qui exposeront la répression belge et catalyseront le soutien international pour l'indépendance du Congo. Les autorités belges s'étaient néanmoins débarrassées de Lumumba. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise a lieu ensuite à Bruxelles, mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Le gouvernement belge, qui comptait jouer sur les divisions entre participants, se retrouve confronté à un front uni des représentants congolais et à la surprise de ceux-ci, il leur accorde immédiatement et dans la plus totale improvisation l'indépendance qui sera fixée au 30 juin 1960. Le discours critique de Lumumba Et celui contre le colonialisme, il affirme la nécessité d'une indépendance obtenue par la lutte plutôt que par la concession. Des élections générales auront lieu et en mai 1960, le mouvement national congolais, le MNC de Patrice Lumumba, remporte les élections avec près d'un tiers des votes. Le dirigeant de la BACO, Joseph Kasavubu, dans un souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre, ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste au candidat du parti ayant remporté le plus de voix. Il forme le premier gouvernement du Congo indépendant. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement chassé les libéraux et s'est entouré de conseillers étrangers de gauche, prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Il prend le contre-pied de la politique modérée de ses débuts, telle qu'on peut la découvrir dans son livre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Et celui-ci avait été écrit en 1956, et il ne revendiquait pour le Congo qu'un simple statut d'autonomie. Au lieu de s'adresser au roi des Belges présent à la cérémonie et qui venait de prononcer un discours paternaliste convenu avec le président Kasavubu, Lumumba commence son allocution par une salutation aux Congolais et Congolaises et aux combattants de l'indépendance. Ça a beaucoup choqué. Le roi était présent. Son discours, qui doit lui permettre de l'emporter sur Kasavubu dans l'opinion des Congolais politisés, proclame vivement que l'indépendance, qu'il souhaite associer à l'unité africaine, marque la fin de l'exploitation et de la discrimination, ainsi que le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Exactement ce que souhaitaient les différents participants à la conférence à laquelle j'ai assisté ce vendredi. Le roi de Belge se sent offensé, alors qu'il se considère comme le père de l'indépendance congolaise. Ayant été l'auteur, en janvier 1959, d'un discours radiophonique par lequel il a été le premier Belge à annoncer officiellement qu'il fallait mener le Congo belge à l'indépendance, sans vaine précipitation et sans atermoiement funeste. Baudouin, le roi des Belges, veut se retirer et regagner Bruxelles. Mais le premier ministre belge, Gaston Esquins, parvient à l'en dissuader et le soir même, lors d'un banquet réunissant hommes politiques congolais et belges, Patrice Lumumba s'efforce de préciser ses paroles, prononçant un discours se voulant lénifiant, dans lequel il évoque un avenir de coopération belgo-congolaise. En réaction à une décolonisation envisagée sur une longue période par la Belgique, Lumumba propose une transition vers l'indépendance rapide et complète, contrastant fortement avec les plans belges qui incluaient un plan de 30 ans pour une décolonisation graduelle. Le contraste entre les visions de Lumumba et de l'État belge se manifeste de manière évidente lors des discours d'indépendance. Tandis que le roi Baudouin Ier évoque une transition pacifique et reconnaissante envers l'œuvre belge, Lumumba dépeint une lutte pour l'émancipation face à une oppression coloniale prolongée. Je vous lis un extrait de son discours. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression, d'exploitation. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut. Tout cela est désormais fini. En 1960, 2 ans après le Ghana, le Congo accueille à son tour une conférence panafricaine. Confronté à la sécession du Katanga, une vaste province au sud du pays, soutenue par la Belgique, Lumumba dénonce le fédéralisme comme une manœuvre néocolonialiste. En fait, le Katanga était une région qui était très prisée parce qu'elle contenait beaucoup de minéraux naturels que la Belgique briguait. C'est pour ça qu'elle avait, elle s'était joué des rivalités tribales pour faire faire sécession au Katanga, et c'est pour ça que Patrice Lumumba dénonçait ce fédéralisme qui prenait la place du véritable État unitaire à sentiment national qu'il souhaitait pour le Congo. Et donc, Lumumba fait un discours pour dire qu'il n'est pas d'accord et pour crier au scandale. Les Congolais sont pas contents et les paroles sont interprétées comme anti-belges, alors même que beaucoup de fonctionnaires belges étaient encore dans l'administration congolaise, ainsi que dans l'armée. Et l'armée était encore belge, en attendant les premières promotions d'officiers congolais. N'oublions pas que le Congo accédait de manière très progressive et petit à petit, avec l'accord du roi Baudouin et des autorités congolaises, à l'indépendance, une indépendance progressive qui passait d'abord par une construction simultanée de ses forces internes, et notamment de son fonctionnariat et de son armée. Des émeutes surviennent contre les Blancs, et Lumumba évince les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée en doublant la solde de ses soldats. La Belgique juge alors qu'on ne peut plus avoir confiance dans le gouvernement congolais. Elle répond par l'envoi de troupes pour protéger ses ressortissants à Léopoldville, la capitale située dans le Bas-Congo, mais aussi dans d'autres régions, et notamment au Katanga, cette riche région minière qui alors était dominée par la puissante entreprise de l'Union minière du Haut-Katanga, qui était belge. Et cette province avait fait sécession, et elle avait été proclamée le 11 juillet 1960 par Moïse Tshombe, un Congolais, qui était à la solde de la Belgique. 11 000 soldats belges sont acheminés au Congo en 10 jours. Ils sont précédés par les troupes spéciales des paracommandos. Cette intervention militaire surprend beaucoup à l'étranger et encore plus en Afrique par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité du déploiement militaire. La Belgique disposait alors en Allemagne de l'Ouest d'une zone militaire suréquipée s'étendant de la frontière belge au rideau de fer, et elle était membre de l'OTAN. L'état-major disposait donc d'une panoplie de ressources militaires, en partie d'origine américaine, qui lui ont permis de déployer des avions, des transports de troupes et même des navires de marine de guerre qui vont aller bombarder les positions congolaises, dans l'estuaire du fleuve Congo, avec l'accord de l'OTAN, en pleine guerre froide. Et donc, d'ailleurs, pendant ce moment-là, le front belge d'Allemagne a été passablement dégarni. Donc, en quelque sorte, si on récapitule, il n'y a pas eu vraiment de guerre d'indépendance du Congo, mais, et l'indépendance s'est faite en plein accord avec les autorités belges, mais une fois que l'indépendance a été proclamée et que l'État congolais a commencé à se constituer, la Belgique a riposté, et c'est alors une guerre entre deux États. Le conflit menace d'éclater, cela provoque l'internationalisation de l'affaire congolaise, avec à l'ONU une condamnation par l'Union soviétique et des pays du tiers-monde qui soutiennent Lumumba et ses partisans. L'ONU ordonne à la Belgique de retirer ses troupes. Mais après plusieurs résolutions contradictoires, elle rejette l'option militaire et elle qualifie le conflit au Katanga de conflit intérieur. Le 12 août, la Belgique signe un accord avec Moïse Tshombe qui reconnaît de facto l'indépendance du Katanga, qui en fait était quand même sous sa solde. Et Lumumba décide de réagir en envoyant des troupes reprendre la région. L'ONU impose militairement un cessez-le-feu et empêche l'entrée des troupes congolaises. Le directeur de la CIA, Alain Dulles, indiquait à ses agents dans un télégramme du 26 août au sujet de Lumumba: nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que dans les circonstances actuelles, il mérite grande priorité dans notre action secrète. Cela a été perçu par Lumumba comme une trahison de l'ONU. Il en appelle à la solidarité africaine, il réaffirme son intention de résister, et puis il dit: entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis. Il est révoqué le 4 septembre 1960 par le président de la République, donc par le président Joseph Kasavubu, avec ses ministres nationalistes, alors que Joseph Kasavubu, vu la Constitution, n'en avait pas le droit. Il sera remplacé par Joseph Ileo. Et Kasavubu blâme publiquement Lumumba pour le massacre de milliers de personnes par les forces armées lors de l'invasion du Sud Kasaï en août et pour l'implication soviétique dans le pays. Souvenons-nous qu'à l'époque, bien sûr, les soviétiques, les russes s'en mêlaient et à l'époque, on était en pleine chasse, on était encore en plein dans la chasse aux sorcières et le maccartisme aux États-Unis. Et donc il s'agissait, c'est pour ça que la CIA s'en est mêlée, il s'agissait bien sûr de neutraliser toute velléité d'imposition de son pouvoir par de leur pouvoir par les soviétiques dans ces pays nouveaux. Lumumba déclare qu'il restera en fonction. Le Conseil des ministres et le Parlement lui votent une motion de maintien. Et il révoque à son tour le président Kasavubu sous l'accusation de haute trahison et appelle à Léopoldville une partie des troupes de l'armée nationale congolaise stationnée à Stanleyville et au Kasaï. Cependant, un coup d'État soutenu par la CIA éclate à Léopoldville par lequel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir. Donc, du coup, on avait des autorités qui étaient en grande majorité, mis à part Lumumba et ses ministres, et une grande partie du Parlement qui relevait de son parti politique, alors qu'on avait en grande majorité des dirigeants qui étaient à la solde de la Belgique, voilà qu'on met en place un nouvel homme politique, Joseph Désiré Mobutu, qui lui est à la solde des Américains. Le nouveau régime reçoit le soutien de Kasavubu et de l'ONU. Celui-ci, Mobutu, est un ex-militaire mais aussi un ancien journaliste dans la presse congolaise pro-coloniale. Il crée le Collège des commissaires généraux composé de Congolais compétents et chargé de gérer au plus pressé une situation chaotique. Il assigne à résidence Lumumba, Ileo et leur ministre. Mais Lumumba se défend et fait passer en secret un mot d'ordre demandant à ses amis politiques de le rejoindre à Stanleyville. Et il établit un gouvernement clandestin dirigé par Antoine Gizenga. Lumumba va s'échapper avec sa famille de la résidence de Kalina où il se cachait et il cherche à gagner Stanleyville avec une petite escorte à bord de sa Chevrolet. Son évasion sera découverte 3 jours plus tard. Il harangue ses partisans sur son passage, cela lui fait perdre du temps. Et un officier de liaison du service de renseignement, Gilbert Mpongo, un major congolais, le retrouve et essaye de l'arrêter. Le 1er décembre, Lumumba est arrêté à Lodi, dans le district de la Sankuru. Et il est ramené ensuite vers Léopoldville à bord d'un avion et transféré au camp militaire Hardy de Tisville. Il se trouve alors sous les ordres des militaires congolais, pro-belges. Donc on va discuter, on va se demander quoi faire et quoi faire de Lumumba et de tous ses partisans qui étaient Maurice Mpolo et Joseph Otiko. Et on va ensuite les conduire à Elisabethville, au Katanga, et on va les livrer aux autorités locales. Ils seront ligotés, humiliés, torturés par des responsables katangais et ils mourront, ils seront fusillés. Voilà. Donc après il y a eu des tas de polémiques, on accuse les uns et les autres, donc nous on n'est pas là pour faire des supputations sur qui serait responsable de la mort de Lumumba et de ses comparses. Voilà, tout simplement sans vouloir faire des supputations alors qu'on n'a pas toutes les données en main. Je voudrais dire que le cas de Patrice Lumumba est un cas typique de ce qui s'est passé dans les États africains nouvellement indépendants après les années 60. Tous, y compris l'Afrique du Nord, j'insiste bien là-dessus, on a mis en place, lorsqu'il y avait des dirigeants politiques qui faisaient un consensus parmi dans la population et qui avaient vraiment une vision de l'avenir de leur nation, un projet politique à long terme, avec, tout comme ça a été le cas en France quand le général de Gaulle a repris la main en 45, un sentiment national fort, une volonté de faire à long terme et de reconstruire les institutions et les économies de l'État sur de nouvelles bases indépendantes, de restaurer la souveraineté de l'État, et puis surtout mettre en avant, profiter justement du fait qu'il y a un bouc émissaire, c'est-à-dire un ennemi, en France c'était l'Allemagne, et puis en Afrique c'était l'ancien colonisateur, ou les pro-colonisateurs qui se jouaient des rivalités ethniques pour faire sécession. Eh bien, à chaque fois qu'on a eu un chef, un vrai chef d'État, et on l'a soit supprimé, soit fait supprimer, souvent en se servant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, par des nationaux eux-mêmes, qui n'étaient pas de la même ethnie ou qui avaient été tout simplement achetés, puisque souvent il y a une question financière et économique forte derrière tout ça. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de chefs d'État qui sont restés. On se souvient, on a parlé de Lumumba, tout le monde se souvient également au Burkina Faso de Thomas Sankara, qui est resté quelque temps. J'ai vu des films sur lui et des reportages. Il est resté quelque temps. Il avait vraiment une idée. Moi, pour moi, c'était le général. Je le compare souvent au général de Gaulle en France. C'est-à-dire, pour moi, c'est le général de Gaulle africain qui avait une vision à long terme de son pays et qui voulait, bien entendu, que gouverner au-dessus des partis. Gouverner au-dessus des partis, c'est gouverner au-dessus des partis politiques. C'est la formule du général de Gaulle. C'est naviguer au-dessus des partis politiques en sachant vraiment où on va. Mais ça peut être aussi, dans des États comme l'Afrique, naviguer au-dessus des rivalités de clans et des rivalités ethniques pour le plus grand bien de tous. Donc ces dirigeants politiques-là ont progressivement été éliminés, et à la place on a eu souvent des dirigeants politiques qui faisaient beaucoup de, ont été obligés, hein, c'est pas forcément de leur faute, ont été obligés de faire beaucoup de concessions à l'Occident et notamment aux anciens États colonisateurs qui avaient leurs hommes et leurs réseaux sur place et qui connaissaient très bien les États concernés puisqu'ils y étaient restés, ils les avaient gouvernés pendant très longtemps. Et donc progressivement l'Occident, qui n'a pas voulu l'idée de pouvoir continuer à utiliser les richesses de ces pays-là, n'ont rien fait pour que ces États africains puissent s'émanciper, retrouver leur souveraineté et développer leurs économies. Je l'ai déjà montré lors de deux émissions sur les économies africaines que j'ai faites précédemment. Alors, bien sûr, je n'accuse pas complètement l'Occident. Il y a eu, bien entendu, beaucoup de coopération quand même. En France, on peut se targuer d'avoir eu la francophonie et beaucoup d'amitié et de liens entre des grands hommes politiques africains et des grands hommes politiques français, qui souvent, d'ailleurs, se sont retrouvés sur les mêmes bancs d'école quand ils étaient jeunes et qui donc se connaissaient bien et étaient sincèrement amis. Cela dit, les intérêts des pays occidentaux en Afrique à l'époque, dans les années 60, étaient tellement importants que ça a quelque peu neutralisé toute envie de coopération réelle, ce qui est dommage. Voilà. Donc, je voulais commencer par ça. On a bien sûr, lors de la conférence de vendredi dernier, on n'a pas parlé que de ce phénomène-là. On n'a aussi d'ailleurs pas parlé que de l'Afrique. On a aussi beaucoup parlé du Moyen-Orient, d'autres problématiques qui sont parfois différentes. J'ai trouvé que cette entrée en matière sur les rivalités ethniques comme principal facteur de frein du développement en Afrique était particulièrement intense et fort. On va mettre un peu de musique quand même. Donc, comme on a beaucoup parlé du Congo, eh ben, je propose qu'on mette une musique du Congo et je vous donnerai, je vous laisse deviner, parce que j'aime bien faire deviner ce que. Et puis, si vous n'avez pas deviné, eh ben, je vous donnerai le nom du musicien que vous avez entendu à la fin. À tout à l'heure, bonne écoute.
Ça, c'est la trop vocalisation.
Vive le loup, vive le loup, vive le loup, vive le loup.
vous dis de quoi il s'agissait, mais vous n'avez peut-être pas retenu parce que c'est pas évident. C'est le, en fait, c'est le, c'est, j'ai trouvé ce musicien sur YouTube, Afarat Sena. C'est une sorte de rap, mais en même temps avec un mélange de chants traditionnels et de musique traditionnelle congolaise. C'est très beau. Et ça s'appelle Afro M Bocalisation. Afro M Bocalisation. Donc je reprends mon intervention sur l'Afrique. Donc je rappelle ce que je disais tout à l'heure en introduction à mon émission. Vendredi 25 avril 2025, j'ai assisté à une conférence organisée par l'Institut Africa, qui est dirigé par le docteur Paul Kananura, qui autrefois elle s'appelait Institut Mandela, et puis aujourd'hui il a changé de nom, c'est Africa Institute, Institut Africa avec un K, K-A, et son association organise énormément de conférences. Il fait se rencontrer beaucoup de gens du Moyen-Orient, mais surtout de l'Afrique, des économistes, des politiques, des spécialistes des questions sécuritaires autour des questions qui concernent la sécurité en Afrique, mais aussi sa croissance. Là, c'était plutôt sur la sécurité, puisqu'on a parlé de paix. Il y a eu un chant sur la paix en introduction, et beaucoup d'éminentes personnes qui venaient d'Afrique, du Cameroun, du Maroc, d'Égypte, et ainsi que de Libye, et j'en passe. Hein, il y avait beaucoup de monde, et on a eu des interventions qui étaient très intéressantes. Alors après protéger les minorités, la deuxième chose qui est venue au premier intervenant, c'était protéger les ressources minières, forcément. Et c'est pour ça que j'ai autant parlé du Congo en 1960, de ce qui s'est passé au Congo après son indépendance en 1960, parce que dans les années 60, parce que justement c'est typique. Il y avait un vieux fond de rivalité ethnique, mais aussi une question de ressources minières. Comme je l'avais expliqué lors de mes deux dernières émissions sur les économies africaines, que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, sur l'emplacement Mai de Résistance, où tous nos podcasts sont en place avec leur résumé, les économies africaines ne peuvent pas fonctionner, ne pourront jamais fonctionner correctement tant que, dans les pays qui ont des ressources minières, tant que ceux-ci, d'une part, n'auront pas la parfaite maîtrise et la parfaite possession de leurs propres ressources minières, mais également tant que ceux-ci continueront à vouloir faire peser l'essentiel du rôle d'apport de devises dans leur pays et d'apport en capital sur l'écoulement de leurs matières premières à l'extérieur. Cet écoulement des matières premières doit être, comme je l'avais déjà expliqué, la source de la création d'une rente dont on peut ensuite se servir pour être plus fort en relations internationales, mais également pour pourvoir son pays en infrastructure. Ça, c'est très important. Et quand je parle d'infrastructure, ce ne sont pas seulement, même s'il ne faut pas négliger cet aspect-là, puisque la sécurité, c'est important, ce ne sont pas seulement des dépenses militaires. Le troisième facteur qui a été évoqué, c'est une vraie décentralisation, et forcément, ça, là aussi, on l'avait dit lors des dernières émissions qui avaient été faites sur Mai de Résistance à propos des économies africaines, il faut une vraie décentralisation. Celle-ci est encore pas suffisamment développée, même si beaucoup d'efforts ont été faits, notamment depuis les années 80 et 90. Et puis, un constat fait par l'un des intervenants, il est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas d'industrie de l'armement, il n'y a pas beaucoup de fabricants d'armes, voire très peu. Alors qu'il y a quand même, il faut bien le reconnaître, beaucoup d'armes. D'où viennent ces armes? Je n'irai pas plus loin. Tout le monde a très bien compris le problème. Il faut à tout prix surveiller et limiter, bien sûr, les importations d'armes qui sont vendues sur le continent africain en provenance de nombreux autres pays occidentaux, russes, turcs, du Moyen-Orient ou des États-Unis. Voilà, ces armes qui sont fabriquées sans véritable politique d'armement construite, souvent finissent dans les mains de terroristes. Et on sait qu'en Afrique de l'Est, les populations en souffrent beaucoup, ou de milices qui souvent font beaucoup de mal et beaucoup de désordre, et à cause desquels d'ailleurs l'aide alimentaire, lorsque l'Afrique en a besoin, ne peut pas être acheminée, et à cause de laquelle aucune politique de développement valable ne peut se mettre en place. Voilà. Il y avait, ce jour-là, une des présentatrices d'honneur était Lady Ngo Mang Epese, qui est très connue au Cameroun et qui donc, c'est une dame de communication, et c'est elle qui a présidé l'une des tables. Nous avons eu aussi affaire à Blaise Chikaya, qui juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Représentant l'UNESCO en Irak. Celui-ci évoquait les conflits religieux, bien entendu, puisque en Irak c'est très fort, il a évoqué notamment le fait que le fait religieux était très important et en Irak, et que la seule solution en Irak, alors que en Afrique on dit qu'il faut protéger les minorités et éteindre et anéantir la puissance des rivalités tribales qui gênent la démocratie. En Moyen-Orient, nous dit Blaise Chikia, la problématique c'est plutôt mettre en avant la laïcité dans chaque État du Moyen-Orient, parce que ce sera la base à partir de laquelle pourront se développer les libertés individuelles et par conséquent les démocraties. Et toute idée d'une souveraineté de l'État, puisque forcément, à cause du fait religieux, il y a souvent des groupes qui sont souvent multinationaux qui prennent la main sur la politique des pays concernés au nom de certains groupes religieux. Il y avait aussi l'ambassadeur des Comores qui lui a évoqué l'idée de la mise en place à la place des OMD, en plus des OMD à l'ONU, des OCC, les objectifs de culture commune, en plaidant pour une formation universelle qui serait en quelque sorte une sorte de SMIC culturel, ce qui s'appelle le SMIC, salaire minimum salaire minimum indispensable à la culture chez tous les jeunes du monde entier. Donc une culture de base pour tout le monde, pour que tous les États puissent évoluer en même temps et en simultané. Ça, c'est une idée exceptionnelle. Alors, pour la mettre en place, il faut s'accrocher, mais si on pouvait la mettre en place, ça serait bien. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne peux pas retranscrire l'intégralité de la conférence. Voilà, certains, comme le général Jacques Perget, nous dit qu'il nous vivons la fin d'une histoire. C'est la fin d'une approche libertaire et dérégulée des relations internationales, qu'aujourd'hui les choses ont changé, que les démocraties libérales et le libéralisme économique ont triomphé, et que toutes les idées sur la dérégulation sont vouées à l'échec, puisque dans un tel monde. Et que donc, il faut revenir à cette idée qui est née dans les années 80, alors que Ronald Reagan était allé, et Margaret Thatcher étaient à l'époque à la tête des États-Unis et du Royaume-Uni, les deux pays à l'époque les plus forts du monde, qu'il faut revenir de cette idée sur laquelle nous nous sommes endormis, et par rapport à laquelle, faute de trouver de nouvelles idées, nous nous raccrochons à tout prix depuis plus de 50 ans, avec l'idée d'un retour à des croissances comme dans les 30 glorieuses, il faut à tout prix abandonner l'idée de la démocratie libérale telle qu'elle est adossée à un libéralisme économique à tout craint, et revenir à une régulation économique plus forte, une régulation par les États. Ce qui ne veut pas dire qu'on tomberait pour autant dans une forme de collectivisme ou d'interventionnisme à outrance. Simplement, le droit, c'est très important, et le droit ne doit pas fonctionner sans être plus ou moins entouré de pratiques qui visent à privilégier la notion d'égalité et d'équité, alors même que aujourd'hui les tribunaux civils jouent souvent en faveur des plus riches. Donc il y a absolument une éthique à mettre en place à ce niveau-là, et une régulation par les États, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire de l'interventionnisme à tout craint ou des nationalisations à tout prix, mais simplement le renforcement des prérogatives de l'État sur le respect de la réglementation. Des réglementations avec des réglementations qui vont dans le sens d'un partage plus important de la valeur ajoutée. Voilà. Voilà un petit peu les idées qui ont été dites. Bon, bien sûr, on a aussi parlé des réseaux de djihadisme, des réseaux d'influence, des systèmes d'influence. On s'est posé la question de quelle politique mener pour supprimer le terrorisme à long terme. Et on a parlé de multipolarisation du monde, avec la notion de Sud global qui aujourd'hui fait jour, avec comme principal acteur les BRICS, en disant que cette alternative du Sud global et des BRICS n'est pas toujours très cohérente, et pas toujours très cohérente parce que il y a des brisures, on n'est plus en 55 à Bandung, et il ne faudrait pas confondre la notion de Sud global et l'action des BRICS comme un nouveau Bandung. Parce que aujourd'hui la société a changé, il y a davantage de sectarisme, il y a le fait religieux qui est fort, avec un retour au désintégrisme et à des fanatismes qui, quelque part, n'est pas cet espoir soudain de démocratie, de davantage de liberté pour tous, hommes comme femmes, tel qu'il a vu le jour en 55 à Bandung, tel qu'il était mis en avant en 1955 à Bandung, et tel qu'il était mis en avant dans les années 60, quand Alger, qui était à l'époque la capitale des révolutions, avec à sa tête le président Ben Bella, invitait régulièrement ses amis qui avaient participé à la conférence de Bandung et qui luttaient pour la paix des braves, c'est-à-dire davantage de liberté et de lutte contre l'oppression en faveur des souverainetés des peuples. Je pense à Che Guevara et à tous ces grands dirigeants qui ont séjourné à Alger. À l'époque, c'était une véritable plateforme en pleine ébullition, où il y avait beaucoup de liberté et d'ouverture d'esprit. Cette doxa-là, elle a disparu aujourd'hui et elle n'est plus ces idéaux-là. Il y avait aussi beaucoup un engouement très important pour l'éducation. Bon, j'ai bien sûr oublié Fidel Castro et beaucoup de dirigeants d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud notamment, qui allaient souvent régulièrement à Alger et qui avaient vraiment une idée éducative, qui avaient vraiment compris que l'éducation c'était très important pour développer les démocraties et faire du vrai développement économique et restaurer la souveraineté de chaque État et la dignité de chacun des États. Notamment, il y avait, puisque je parle de l'Algérie, Mohamed Boudiaf avait écrit un livre sur l'éducation un peu avant d'être président de la République, bien après Ben Bella, et qui était très intéressant. Et où, d'ailleurs, c'était un livre de président ou de grand homme politique, puisque c'est vrai que l'éducation, l'enseignement, c'est très important dans un pays, et ça rejoint très fort l'idée de ce Comorien qui, lors de la conférence, nous parlait justement d'un salaire minimum indispensable minimum indispensable à la culture. Elle avait même rajouté un SMIC qui serait un salaire minimum indispensable à la conversation pour que tout le monde puisse discuter à valeur égale d'un État à l'autre. Enfin, pour conclure, je parlerai de solidarisme international, que j'ai comparé très fort à Léon Bourgeois, qui est l'auteur, un des tout premiers théoriciens du solidarisme, Léon Bourgeois, qui est de Châlons-en-Champagne, qui a été préfet de la Marne, et qui a été à l'origine, qui a représenté la France lors des deux premières grandes conférences pour la paix, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et notamment qui était présent parmi les Français qui ont contribué à la mise en place de la Société des Nations à la conférence de la paix en 1920. Voilà, donc j'allais rappeler une dernière chose, les Comoriens étaient très présents lors de cette conférence, ils n'étaient pas tout seuls, mais ils étaient présents. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait aussi des Égyptiens, des représentants de l'Égypte, avec Imensa Chambi, qui est venu nous parler de l'Égypte et de sa situation actuelle, en mettant en avant le fait que l'Égypte ne pourrait pas s'en sortir sans la mise en place d'une agriculture durable et la maîtrise de ses énergies, ainsi que une bonne gestion de son eau. Il nous a parlé de différents conflits qui entouraient des lieux importants comme le canal de Suez, qui avait été d'ailleurs nationalisé par Nasser, ou les barrages comme le barrage de la Renaissance. Comme de partout dans le monde, mais surtout au Moyen-Orient et en Afrique, la problématique de l'eau et de la maîtrise de l'eau, c'est fondamental dans le développement d'un pays et ça marche vers la réussite. Voilà, donc l'Égypte était présente aussi, et donc j'étais en train de vous dire, il y a eu quelqu'un d'autre aussi qui était très intéressant et qui a eu du courage parce qu'il est venu nous parler du président Donald Trump. C'est Tijan Tiam. Qui nous a parlé, qui est président de son association, et qui nous a dit qu'il ne fallait pas pratiquer de l'ostracisme ou avoir trop de préjugés, et que la politique pragmatique de Donald Trump pouvait s'avérer dans certaines circonstances. Il l'a déjà montré à plusieurs reprises d'ailleurs, lorsque notamment il prône le repli des États-Unis sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il prône en quelque sorte le fait, et d'ailleurs dans la politique des États-Unis, à de nombreuses reprises, il y a eu un repli sur soi et une forme de protectionnisme. Et cette forme de protectionnisme, c'est l'antithèse de l'Amérique qui se mêle de tout et qui est partout avec l'hégémonie du dollar. Donc ça peut être un facteur de paix, ça peut être perçu comme un facteur de paix. Ensuite, bon, on peut critiquer les accords d'Abraham, mais il y a quand même des initiatives qui ont été prises en faveur des accords d'Abraham qui, même si c'est aussi critiquable, je ne prends pas position dessus, mais il y a un certain aspect qui porte l'extinction du conflit. Donc il a eu ce courage-là, donc je parle de lui parce que je pense moi aussi qu'il faut être assez ouvert en matière de paix. Il faut éviter tout sectarisme ou toute opinion. En fait, le règne des opinions n'a jamais été très positif dans la recherche de la paix et de la stabilité politique, que ce soit interne à un État ou entre plusieurs États. Et je terminerai en parlant des Comoriens et en disant qu'aux Comores, il y a une culture de paix qui est très forte et qu'aux Comores, on est souvent musulmans, mais qu'on est musulmans avec un islam très peu rigoriste et très soft et très dans l'ouverture d'esprit, la bienveillance et l'accueil. Et donc voilà, c'était juste une petite touche complémentaire que je voulais apporter en disant que les Comoriens ont fait bien de les inviter lorsqu'il y a des conférences diplomatiques, même si les îles Comores ne constituent pas un grand État-nation avec un appareil militaire très fort et une économie dont on parle de partout dans le monde. Mais quand même, ce sont des gens qui ont un bagage intellectuel très fort, un bagage culturel très fort, dont ils peuvent faire profiter toutes les conférences internationales d'entente en matière géopolitique, en matière d'avancée vers la paix. Je terminerai sur ces mots-là. Chers auditeurs, je ne veux pas dépasser mon temps d'antenne. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je laisse ma place à l'émission suivante. Au revoir.